Survivant de la Marne et de Verdun, soldat des dernières batailles, combattant de la résistance, nous voulons terminer cette journée qui est la vôtre en parlant en votre nom à tous les Français, à ces Français qui savent que depuis 18 ans, seule la France n'a pas cessé de se battre. Vous qui lui avez permis de reparaître aujourd'hui dans la joie de Paris, voyez se redresser enfin ce grand corps blessé que pendant trop longtemps le monde inquiet regardait tâtonner dans l'ombre. Et si l'on vous interroge sur ce que la vraie France était pour vous, ce qu'elle est pour nous, répondez simplement, celle qui répond à l'image que s'en font ceux qui combattaient pour elle, celle qui répond à l'image que s'en font les étrangers qui l'aiment. Les hommes du Tchad et ceux des Glières étaient bien différents, mais après 15 ans, qu'est devenu ce qui les séparait? Dans les légendes du Moyen-Âge, les déesses de la guerre, lorsque la nuit descend sur le champ de bataille, viennent choisir entre les morts. La France ne choisit pas, et elle dit à son long cortège de morts, « Même si j'étais aveugle, je vous unirais dans mon cœur, car je vous reconnaîtrais à ce que, pour vous tous, j'étais le même espoir et la même France. » Et puisqu'on nous demande chaque jour ce que nous attendons de la République, je vous dis à vous, sachant que le plus humble de mes anciens camarades me comprend aussi bien que le plus illustre compagnon du général de Gaulle, nous en attendons la France pour laquelle vous avez combattu sous le soleil ou dans la nuit. Nous voulons donner enfin leur forme concrète et vivante aux espoirs de ceux qui ne désespéraient pas de notre pays. Le même combat continue par d'autres moyens. Dans la paix comme dans la guerre, nous tenons pour nôtre tous ceux qui croient que la France peut redevenir la France et qui sont résolus à y contribuer fermement et patiemment. Et c'est au nom de tout cela que nous dirons à ceux qui se croient ou se croyaient nos adversaires. Vous avez proclamé que nous apporterions le fascisme avec nous. Depuis que le général de Gaulle assume le destin de la France, le fascisme a-t-il triomphé ou reculé? Contre celui qui avait rétabli la République, défendiez-vous ce que l'histoire de la France appellera le régime du malheur? Nous entendrons demain beaucoup de voix dire que la nouvelle République est mauvaise, mais nous n'en avons pas entendu une seule hier dire que ce régime était bon. Le vieil hôtel de ville de Paris était celui de la commune de 93 et de celle de 71, l'une et l'autre au service de la France. Les murs de ce monument-ci porte la croix de la Légion d'honneur qui fit graver Clémenceau, la croix de la Libération qui fit graver le général de Gaulle, au nom de la République qui fut celle de Danton et de Saint-Just, celle de tous ceux qui ne concevaient pas que l'on pût désespérer de la nation. Clémenceau et Jaurès n'avaient guère cessé de se combattre. Mais si Jaurès frappait à mort lorsqu'il venait de dire « Il ne reste maintenant que la France », avait pu connaître le solennel silence dans lequel Clémenceau gravit la tribune de la Chambre pour annoncer la victoire de 1918, il eût reconnu en Clémenceau son frère. Vieux peuple de France, séculairement divisé, comme il est temps de ne plus attendre de l'avenir tes réconciliations, comme il est temps de comprendre pourquoi, sur le chemin qui va de l'Arc de Triomphe au rond-point de la Défense, le gouvernement veut prolonger une avenue Jean Jaurès par une avenue du général Leclerc. Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet, j'ai dit place de l'Hôtel de Ville que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là! Pour la France! Merci, témoins! Ce qu'est pour nous la République, nous ne l'avons jamais si bien compris que pendant les années d'occupation. Sur les socles déserts, la vieille voix alors sans visage disait « On a pu chasser mes effigies, mais nul n'a pu les remplacer. S'il n'est au pouvoir de personne de m'arracher du cœur des Français, ce n'est pas parce que je suis pour eux le souvenir de jeux politiques désastreux qui ont mis sur ma face victorieuse le masque de la défaite. C'est parce qu'absente ou présente, Français, je suis une part ineffaçable de votre fierté fraternelle. Pour ceux des maquis, j'ai souvent le visage d'un vieux maire, ancien combattant de 14, avec son bras qui manque et ses cheveux blancs. À un monde qui ne connaît pas d'égalité absolue, j'ai jadis imposé l'égalité des hommes devant moi. En un temps où pour tous les peuples d'Europe, la France trouvait dans la Révolution sa nouvelle mission, je me suis appelé la Révolution. J'étais le courage, j'étais la justice, j'étais l'espoir. J'aime ma Coma Rivoli, et encore obscurément dans les bois d'Austerlitz. Et c'est de moi que parle la radio brouillée qui monte avec la nuit lorsqu'elle parle du gouvernement provisoire de la République française. Si longtemps que ne seront pas chassés ceux qui tentent de conquérir l'Europe au nom de l'inégalité des peuples et des races, comment oublierait-on les soldats de l'an 2 qui la firent danser au nom de la liberté? En 1941, le chef des Français libres avait déclaré « Nous disons liberté, égalité, fraternité, parce que notre volonté est de demeurer fidèle aux principes démocratiques que nos ancêtres ont tirés du génie de notre race et qui sont l'enjeu de cette guerre pour la vie ou pour la mort. Le souvenir de la République n'était pas pour nous celui de la douceur de vivre, moins encore celui des combinaisons ministérielles, pas même celui du romanesque de 1848, du sursaut de la Commune. C'était pour nous alors, comme pour vous aujourd'hui, comme toujours pour la France, le souvenir de la Convention, la nostalgie de la ruée de tout un peuple vers son destin historique, la fraternité, mais la fraternité dans le combat et dans l'espoir. C'est devant cette République-là que le chef du gouvernement va présenter le projet de la nouvelle Constitution. Danton et Saint-Just proclamaient que la République est le contrôle du gouvernement par les élus du peuple. Ils ne proclamaient pas qu'elle devait en être la paralysie. Le combat n'est plus l'épopée de jadis, mais il est de nouveau l'effort opiniâtre de tous. L'espoir est immense, même dans l'ordre de la justice, car de ce qui fut l'empire colonial de la Troisième République, la Cinquième va faire avec vous la communauté. Le pays sait que la Cinquième République apporte avec elle une chance et un espoir, alors que la Quatrième ne portait plus en elle qu'échecs ou abandon. Et vous ne vous laisserez... Et vous ne vous laisserez arracher votre espoir, ni par ceux qui ont intérêt à la faiblesse de la République, ni surtout par ceux qui crient là-bas parce qu'ils ont intérêt à la faiblesse de la France. Elle Les institutions deviennent ce qu'en font les nations. C'est à vous qu'il appartient de tenter de faire de la Ve République l'héritière de la Première ou l'héritière de la machine à crise ministérielle à laquelle Dien Bien Phu semblait annoncer une grande nuit funèbre. Au-delà des textes juridiques, fussent-ils les meilleurs, et encore imparfaits comme le sont les textes et les hommes, vous choisirez entre la volonté de résurrection nationale et l'effacement de notre pays. En réponse à un homme qui tient de l'histoire le droit de nous appeler en témoignage, mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. Nul ne peut refaire la France sans les Français. Et la République leur répète à tous ce que leur disait naguère la voix assourdie de la République exilée. Je veux redevenir la France. Parmi vous, nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit. Ici, Londres, les Français parlent au français, honneur et patrie. Vous allez entendre le général de Gaulle. Ici, Paris, le Paris de tous ses quartiers, depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense. Écoute pour la France, République de bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle. Dans ce monde où Isabeau de Bavière avait signé à Troyes la mort de la France, en notant seulement sur son journal l'achat d'une nouvelle volière. Dans ce monde où le dauphin doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être une armée, elle refit l'armée, le roi, la France. Il n'y avait plus rien. Soudain, il eut l'espoir. Et ici même, par elle, les premières victoires qui rétablirent l'armée. Puis, par elle, contre presque tous les chefs militaires, le sacre qui rétablit le roi. Parce que le sacre était pour elle la résurrection de la France et qu'elle portait la France en elle de la même façon qu'elle portait sa foi. Après le sacre, elle fut écartée et commence la série de 20 combats qui l'amèneraient à Compiègne pour rien, si ce n'était pour devenir la première martyre de la France. Nous connaissons tous son supplice, mais les mêmes textes qui peu à peu dégagent d'une nuit étoilée de fleurs de lys son image véritable, son rêve, ses pleurs, l'efficace et fraternelle autorité qu'elle partage avec les fondatrices d'ordre religieux, ces mêmes textes dégagent aussi de ce supplice deux des moments les plus pathétiques de l'histoire de la douleur. Le premier est la signature de l'acte d'abjuration qui reste d'ailleurs mystérieux. La comparaison du court texte français avec le très long texte latin qu'on lui faisait signer proclamait l'imposture. Elle signe d'une sorte de rond bien qu'elle ait appris à signer Jeanne, signée d'une croix. Or, il avait été convenu entre elle et les chefs de guerre du dauphin que tous les textes de mensonges, tous les textes imposés auxquels leur destinataire ne devait pas ajouter foi, seraient marqués d'une croix. Alors, devant cet ordre qui semblait dicté par Dieu même pour délivrer sa mémoire de ceux qui tenaient son corps en leur pouvoir, elle traça la croix de jadis en éclatant d'un rire insensé. Le second moment est sans doute celui de sa plus affreuse épreuve. Si tout au long du procès elle s'en remit à Dieu, Elle semble avoir eu à maintes reprises la certitude qu'elle serait délivrée. Et peut-être, à la dernière minute, espéra-t-elle qu'elle le serait sur le bûcher. Car la victoire du feu pouvait être la terrible preuve qu'elle avait été trompée. Elle attendait un crucifix fait de deux bouts de bois par un soldat anglais posé sur sa poitrine, le crucifix de l'église voisine élevé en face de son visage au-dessus des premières fumées, car nul n'avait osé refuser la croix, c'était hérétique et à cette lâche. Et la première flamme vint, et avec elle, le cri atroce qui allait faire écho dans tous les cœurs chrétiens, au cri de la Vierge lorsqu'elle vit monter la croix du Christ sur le ciel livide. Après quoi, Jeanne ne prononça plus que le mot Jésus. Alors, depuis ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'au cimetière de Terre Sainte, la vieille chevalerie morte se leva dans cette ombre. Dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, les preux de la table ronde et les compagnons de Saint-Louis, les premiers combattants tombés à la prise de Jérusalem et les derniers fidèles du petit roi lépreux, toute l'assemblée des rêves de la chrétienté regardait de ses yeux d'ombre monter les flammes qui allaient traverser les siècles vers cette forme enfin immobile qui était devenue le corps même de la chevalerie française. « Comment vous parlaient vos voix ?» lui avait-on demandé quand elle était vivante. Elle me disait « Va, fille de Dieu, va, fille au grand cœur !» Ce pauvre cœur qui avait battu pour la France comme jamais cœur ne battit, on le retrouva dans les cendres que le bourreau ne put ou n'osa ranimer. Et l'on décida de le jeter à la Seine afin que nul n'en fît des reliques. Car ce n'est pas seulement à Orléans, c'est dans la plupart des villes qu'elle avait délivrées qu'elle devenait présente. Il était plus facile de la brûler que de l'arracher de l'âme de la France. Au temps où le roi l'abandonnait, ses villes faisaient des processions pour sa délivrance. Puis le royaume, peu à peu, se rétablit. Rouen fut enfin reprise. Et Charles VII, qui ne se soucquait pas d'avoir été sacré grâce à une sorcière, ordonna le procès de réhabilitation. À Notre-Dame de Paris, la mère de Jeanne, petite forme de deuil terrifiée dans l'immense nef, vient présenter le rescrit par lequel le pape autorise la révision. Autour d'elle, ceux de Don Rémy qui ont pu venir et ceux de Vaucouleurs, de Chinon, d'Orléans, de Reims, de Compiègne, tout le passé revient avec cette voix que le chroniqueur appelle une lugubre plainte. Bien que ma fille n'ait pensé, ni ourdi, ni rien fait qui ne fût selon la foi, des gens qui lui voulaient du mal lui imputèrent mensongèrement nombre de crimes. Ils la condamnèrent iniquement et la voix désespérée se brise. Alors, Paris, qui ne se souvient plus d'avoir jamais été bourguignon, Paris, redevenu soudain la ville de Saint-Louis, pleure avec ceux de Don Rémy et de Vaucouleurs, et le rappel du bûcher se perd dans l'immense rumeur de sanglots qui monte au-dessus de la pauvre forme noire. L'enquête commence. Oublions. Ah, Oublions le passage sinistre de ces juges comblés d'honneur et qui ne se souviennent de rien. D'autres se souviennent. Long cortège qui sort de la vieillesse comme on sort de la nuit. Un quart de siècle a passé. Les pages de Jeanne sont des hommes mûrs. Ses compagnons de guerre sont confesseurs qui, lui, ne l'avaient pas abandonné. Ont les cheveux blancs. Ici débute non le mythe, mais la mystérieuse justice que l'humanité porte au plus secret de son cœur. Cette fille, tous l'ont connue ou rencontrée pendant un an. Et ils ont, eux aussi, oublié beaucoup de choses, mais non la trace qu'elle a laissée en eux. Le duc d'Alençon l'a vu une nuit s'habiller quand, avec beaucoup d'autres, il couchait sur la paille. Elle était belle, dit-il, mais nul n'eût osé la désirer. Devant le scribe attentif et respectueux, le chef de guerre, tristement vainqueur, se souvient de cette minute, il y a 27 ans, dans la lumière lunaire. Il se souvient aussi de la première blessure de Jeanne. Elle avait dit « Demain, mon sang coulera au-dessus du sein. » Il revoit la flèche transperçant l'épaule, sortant du dos, Jeanne continuant le combat jusqu'au soir, emportant enfin votre Bastille des Tourelles. Revoit-il le sacre ? Avait-elle cru faire sacrer Saint-Louis ? Hélas ! Mais pour tous les témoins, elle est la patronne du temps où les hommes ont vécu selon leurs rêves et selon leur cœur. Et depuis le duc jusqu'au confesseur et à l'écuyer, tous parlent d'elle comme les rois mages rentrés dans leur royaume avaient parlé d'une étoile disparue. De ces centaines de survivants interrogés, depuis l'oviette de Don Rémy jusqu'à Dunois, se lève une présence familière et pourtant unique, joie et courage, Notre-Dame la France avec son clocher tout bruissant des oiseaux du surnaturel, Jeanne de l'enthousiasme du peuple d'Orléans lorsqu'il la vit revenir après la prise des tourelles, le contrepoint de la Jeanne du procès de Rouen, seule au milieu de la haine, avec les profondes traces de ses fers au poignet. Et lorsque le 19e siècle retrouvera ce nostalgique reportage du temps disparu, commencera bien avant la béatification, la surprenante aventure. Symbole de la patrie, Jeanne d'Arc, en devenant vivante, accède à l'universalité. Pour les protestants, elle est la plus célèbre figure de notre histoire avec Napoléon. Pour les catholiques, elle sera la plus célèbre sainte française. Lors de l'inauguration de Brasilia, il y a 2 ans, les enfants représentèrent quelques scènes de l'histoire de France. Apparut Jeanne d'Arc, une petite fille de 15 ans, sur un joli bûcher de feu de Bengale, avec sa bannière, un grand bouclier tricolore et un bonnet phrygien. J'imaginais, devant cette petite république, le sourire bouleversé de Michelet ou de Victor Hugo. Dans le grand bruit de forge où se forgeait la ville que les Brésiliens appellent aujourd'hui la capitale de l'espoir, Jeanne et la République étaient toutes deux la France, parce qu'elles étaient toutes deux l'incarnation de l'éternel appel à la justice. Comme les déesses antiques, comme toutes les figures qui leur ont succédé, Jeanne incarne et magnifie désormais les grands rêves contradictoires des hommes. Sa touchante image tricolore au pied des gratte-ciel où venaient se percher les rapaces, c'était la sainte de bois dressée sur les routes où les tombes des chevaliers français voisinent avec celles des soldats de l'an 2. Ô seule figure de victoire qui soit aussi une figure de pitié, le plus mort des parchemins vous transmet le frémissement stupéfait des juges de Rouen lorsque tu leur réponds « Je n'ai jamais tué personne ». Ils se souviennent du sang ruisselant sur ton armure, ils découvrent que c'était le tien. L'année dernière, à la reprise d'Antigone, la princesse Thébaine avait coupé ses cheveux comme toi et disait avec ton petit profil intrépide la phrase immortelle « Je ne suis pas venu pour partager la haine, mais pour partager l'amour ». Le monde reconnaît la France lorsqu'elle redevient pour tous les hommes une figure secourable. Et c'est pourquoi, dans les pires épreuves, il ne perd jamais confiance en elle. Mais au centre de la solitude des hauts plateaux brésiliens, Jeanne d'Arc apportait à la République de Fleurus une personne à défaut de visage et la mystérieuse lumière du sacrifice, plus éclatante encore lorsqu'elle est celle de la bravoure. Ce corps rétracté devant les flammes avait affreusement choisi les flammes, et pour le brûler, le bûcher dut aussi brûler ses blessures. Et depuis que la terre est battue de la marée sans fin de la vie et de la mort, pour tous ceux qui savent qu'ils doivent mourir, seul le sacrifice est l'égal de la mort. Ô Jeanne sans sépulcre, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants, regarde cette ville fidèle. Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Que les filles d'Orléans continuent à l'incarner tour à tour. Toutes se ressemblent, toutes te ressemblent. Lorsqu'en des temps difficiles comme celui-ci, elles expriment la fermeté, la confiance et l'espoir.